réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Allez, c'est reparti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si vous le rejoignez, merci de commencer votre journée du jeudi 10 mars 2016 avec un autre jour est possible au programme. Annie Sarthe-Fauriat qui nous raconte depuis lundi l'histoire de Palmyre dans un instant, le 4e épisode. Et puis en deuxième partie, je reçois Corinne Royer qui publie aux éditions Actes Sud un roman que je vous recommande vivement, et leurs baisers au loin les suivent. Mais pour commencer, tête chercheuse. Palmyre par Annie Sarthe-Fauriat, professeure d'histoire ancienne émérite de l'Université d'Artois, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Palmyre, Palmyre la cité des caravanes, Zénobie de Palmyre à Rome, Palmyre vérité et légende qui sortira bientôt. Vous êtes aussi membre du groupe d'experts pour le patrimoine syrien auprès de l'UNESCO. Bonjour Annie Sarthe-Fauriat.
Bonjour.
4e épisode, on va parler de Palmyre après Zénobie. Alors, mais on n'a pas parlé de Zénobie.
On n'en a pas encore parlé, mais alors, bon, on va quand même en dire deux mots, ça vaut la peine. Alors, on est avec Odaïnath, par lequel on a terminé hier. Nous sommes au milieu du 3e siècle de notre ère et l'Empire romain donc subit les attaques répétées des Perses. Odaïnath va prendre la tête d'une armée pour repousser les Perses. Il y parvient d'ailleurs. Il va même poursuivre l'empereur des Perses jusqu'à Babylone. Et il va du coup s'arroger le titre de l'empereur des Perses qui est roi des rois. Mais Odaïnath est assassiné peu de temps après, dans des circonstances assez mystérieuses. On ne sait pas très bien si on avait peur qu'il prenne trop de puissance ou si c'était simplement une querelle de famille. Les sources ne sont pas très précises là-dessus. La seule chose, c'est que après la mort d'Odaïnath et de son fils aîné, qui combattait avec lui, c'est sa femme, Zénobie, qui va relever le défi, en quelque sorte, pour le compte de leur plus jeune fils, qui s'appelle Wabalat. Et dans un premier temps, elle va faire en sorte que le jeune fils récupère tous les titres de son père, ce qu'elle parvient effectivement sans doute à obtenir de l'empereur, parce que l'empereur n'a pas les moyens d'intervenir en Orient à ce moment-là. Mais elle a des ambitions beaucoup plus importantes que son mari.
D'abord, s'affranchir de Rome.
Non, elle cherche pas à s'affranchir de Rome. Elle cherche tout simplement le pouvoir sur l'empire. Elle cherche tout simplement à devenir impératrice. Et elle ne voit pas pourquoi ça pourrait pas être elle, dans la mesure où elle a remporté des victoires sur localement. Elle a étendu son influence sur l'ensemble de l'Orient. Elle a mis sous sa coupe l'intégralité des provinces de Syrie, la province d'Arabie, la province d'Égypte. Ses troupes sont en train de progresser en direction des détroits. Ils sont déjà à Ankara, enfin en Syrie dans l'Antiquité. Donc une grande partie de l'Asie mineure est sous son autorité. Et il est vraisemblable qu'elle a en projet de poursuivre jusqu'à Rome pour se faire reconnaître officiellement comme impératrice par le Sénat de Rome. Et donc elle va faire proclamer son fils empereur. Elle, impératrice-mère en quelque sorte, parce que c'est un jeune homme, Wabalat, et ils vont faire frapper des monnaies comme les empereurs romains, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Elle entend absolument assumer
la cour impériale. Comment Rome va réagir ?
Ah ben, Rome, dans un premier temps, ne dit pas trop grand-chose parce que les empereurs ont autre chose à faire. Mais en 270, alors qu'elle a déjà commencé à étendre son influence, arrive au pouvoir en Occident un nouvel empereur qui s'appelle Aurélien. Et Aurélien est un homme qui n'est pas prêt à négocier, qui est un homme fort. Il veut pas partager le pouvoir, c'est clair. Parce que les Zénobie et son fils ont essayé de ménager un petit peu l'ambiguïté en disant, au fond, on pourrait peut-être se partager le pouvoir, nous l'Orient, toi l'Occident. On a vu des monnaies où ils étaient tous les deux, Aurélien et Wabalat. Mais en 271, ils ont franchi le pas. Wabalat est seul représenté sur les monnaies, Zénobie est seul sur les monnaies. Donc il s'assume absolument empereur et impératrice, les monnaies sont claires là-dessus, les bornes milliaires qui sont sur les routes, qui sont des objets de propagande impériale et qui manifestent vraiment le pouvoir, sont rédigées exactement comme pourrait l'être, on remplace le nom de l'empereur précédent par Wabalat, etc. Donc ils assument absolument. Le problème, c'est qu'Aurélien donc, n'est pas décidé à céder, ni à partagé, et Aurélien, à la tête de ses troupes, vient en Orient. Il va battre les troupes de Zénobie en 3 batailles. Il va se présenter à Palmyre, qui n'est pas fortifié du tout, qui n'a pas de rempart. Visiblement, il y a un parti à Palmyre qui est hostile à Zénobie, qui va négocier la reddition. La ville n'est d'ailleurs pas détruite, contrairement à ce que l'on dit. D'ailleurs, les archéologues n'ont rien retrouvé qui manifeste un incendie ou une destruction violente, etc. D'ailleurs, il suffit de voir les ruines actuelles, enfin, telles qu'elles étaient.
Donc, c'est une parenthèse, bon. C'est une utopie de Zénobie.
Alors, oui, elle a cru qu'elle pouvait, elle aurait pu. D'ailleurs, c'était une utopie plus ou moins, parce qu'il y a eu d'autres empereurs issus de l'Orient avant elle. Et après tout, il n'y a pas de légitimité du pouvoir à Rome à ce moment-là. C'est celui qui remporte la victoire, c'est celui qui est proclamé par ses troupes. Donc après tout, pourquoi pas elle et Wabalat plutôt qu'Aurélien ou un autre, etc. Donc elle tente l'aventure. Le problème, c'est que elle va tomber sur plus fort qu'elle et que elle va être capturée, emmenée à Rome probablement pour figurer au triomphe d'Aurélien. Et qu'à partir de ce moment-là, alors la ville va se révolter en 273. Aurélien est obligé de revenir. Il est déjà presque en Occident, hop, il revient pour mater à nouveau la rébellion qui a surgi dans son dos. Et puis à partir de ce moment-là, Palmyre va rentrer dans le rang. On n'entend plus parler de volonté, de puissance ou quoi que ce soit. Mais la ville, pour autant, n'est pas du tout détruite, n'est pas du tout abandonnée. Au contraire, elle va faire partie de tout un système de défense de l'Orient. Dioclétien, début du 4e siècle, va y installer une légion avec un camp. La ville continue à construire, à restaurer les monuments. On a des inscriptions qui le prouvent. Le christianisme va également se développer à Palmyre. Il y a des églises. Nos collègues archéologues polonais en ont retrouvé plusieurs. Les temples vont se transformer en églises. Et puis, quand la conquête musulmane va survenir en 634, les musulmans vont investir la ville. La ville va se transformer en ville musulmane. Les temples qui étaient devenus des églises vont devenir des mosquées.
Mais pas de destruction pour autant.
Mais pas de destruction pour autant. Au contraire, d'ailleurs, les émirs de Damas au XIIe siècle vont fortifier le temple de Bel en récupérant des colonnes, des choses qui étaient dégradées, parce que bon, le site s'est quand même dégradé un peu, pour construire des bastions défensifs autour du temple. Et du coup, la ville va se réduire à l'enceinte du temple de Bel. C'est-à-dire que quand les voyageurs vont redécouvrir Palmyre au milieu du XVIIe siècle, 1678, les premiers qui vont occidentaux qui vont redécouvrir Palmyre donc au XVIIe siècle vont trouver une vingtaine de familles dans des huttes en terre qui sont tous concentrés dans l'enceinte du temple de Bel, protégés par le bastion qui est autour. Et puis, le site est parcouru périodiquement par des bédouins qui viennent y faire paître les troupeaux, etc. Donc,
ouais, mais ce n'est plus le poumon économique de l'époque.
Ah non, plus du tout. La ville a complètement... Elle est concentrée autour de son oasis, et puis c'est tout. Donc, il y a des pasteurs, des bédouins qui viennent, etc., qui d'ailleurs défendent assez farouchement le site. Les premiers voyageurs qui viennent...
Alors, pourquoi, justement
risquent leur peau. Parce que les Bédouins pensent que ces Occidentaux vont venir leur voler leur trésor. Les voyageurs, là je prépare un livre justement sur la découverte archéologique de la Syrie, donc j'ai lu beaucoup de voyageurs, et ils disent tous, les Bédouins nous posent qu'une seule question, toi tu sais lire ce qui est écrit sur les colonnes, donc tu vas trouver les trésors. Donc ça les inquiète beaucoup. Et puis, c'est un monde, ce monde des Bédouins, un petit peu rebelle aux émirs d'Alep, de l'Empire ottoman qui domine l'Orient, et ils tiennent farouchement à leur indépendance. Et donc, ils ont peur que ces Occidentaux montrent où est la route pour venir les châtier ou leur créer des problèmes. Donc, ils sont pas très, très chauds, si je puis dire, pour voir arriver les Occidentaux. Et souvent, ils les rançonnent très, très fortement. Et puis, c'est très dangereux parce que il y en a peut-être certains dont on n'a pas eu le récit pour nous l'expliquer, mais qui se sont peut-être fait tuer parce que les menaces étaient très, très précises. Donc, voilà. Donc, les Occidentaux vont découvrir ce site magnifique parce que il est resté quasi intact. Il y a des forêts de colonnes, ils sont tous émerveillés.
Mais justement, l'histoire de Palmyre, la mémoire de Palmyre, les années d'apogée de cette ville sont toujours présentes dans l'esprit de
absolument. Les gens n'ont jamais perdu la trace de Palmyre. C'est-à-dire qu'on a toujours su où c'était, contrairement à Petra, l'autre cité caravanière qui est en Jordanie actuellement, où on avait perdu le chemin d'accès à Petra, qu'il faut dire n'est pas évident, parce qu'il faut retrouver une espèce de boyau dans les falaises pour arriver au site. Palmyre, on a toujours su où c'était. Il y a toujours eu des contacts entre les émirs de Palmyre et Alep, etc. Donc, ils viennent de temps en temps vendre des produits. Ils vendent notamment de la cendre pour fabriquer du savon à Alep. Donc, une plante dans le désert qui sert à fabriquer le savon à partir d'une cendre très particulière. Donc, il y a toujours des contacts, mais ils ne veulent pas que les Occidentaux y aillent. Donc, il a fallu très longtemps avant que les premiers puissent vraiment aller à Palmyre, faire des dessins, relever les monuments, etc.
C'est quoi le 19e siècle ?
Alors, c'est fin du 17e, mais c'est surtout à partir du début du 18e siècle, avec les voyages de Wood et Dawkins, deux Anglais, et puis le voyage du Français Cassas, qui va faire de magnifiques planches des monuments de Palmyre. Et alors, tout ça va ouvrir la voie, effectivement, à la découverte, et ils vont tous se précipiter à la suite de ça à Palmyre pour aller voir ces magnifiques ruines. Ça n'empêche que c'est toujours dangereux, hein, parce qu'au début du 19e siècle, il y a encore un voyageur anglais qui paye pas suffisamment cher les Bédouins du coin et qui va se faire mettre sous clé dans le temple de Bel, et il a interdiction de sortir, ils l'ont expulsé rapidement. Donc ça ne devient véritablement fréquentable, on va dire, que dans les années 1860.
Après les premiers voyageurs, je suppose que ce sont les archéologues qui vont arriver. Et puis ensuite, ça va être les militaires. Hein. Ça va être une région qui va être conquise, prise, colonisée. Choisissez le terme le plus exact pour parler des mandats français dans cette série. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période-là à Palmyre, à Nice-Sartoria ?
Alors, comme on le signalait tout à l'heure, donc la population s'est considérablement réduite et confinée dans l'enceinte du temple de Bel. Et c'est là d'ailleurs que vont la trouver les archéologues français de l'époque du mandat, quand en 1929, ils décident de restaurer le temple de Bel. Donc ils évacuent à ce moment-là la population qui était dans l'enceinte. Là, l'ensemble de l'enceinte était quasiment occupé. La population avait cru depuis le XVIIe siècle. Et un architecte français, d'ailleurs, va construire une ville nouvelle à l'extérieur du site antique pour reloger la population qui a été expulsée de l'enceinte du temple. Et à ce moment-là, les archéologues français vont procéder à des fouilles et à des restaurations du temple. Juste une petite remarque, on se demande si la population était restée dans l'enceinte du temple, parce qu'on avait quand même des maisons qui dataient du XVIIe, du XVIIIe siècle. Certes, c'était des huttes en terre, mais enfin, ça a une valeur aussi sur le plan patrimonial. Peut-être que Daesh n'aurait pas fait sauter le temple, il n'aurait peut-être pas osé faire sauter aussi le village, on ne sait pas. C'est une question qu'ont posé des collègues archéologues en disant, dans le fond, on a peut-être été responsable en évacuant la population du temple. On a favorisé peut-être sa destruction par Daesh, mais enfin, on ne pouvait pas le prévoir, évidemment, à cette époque-là.
Merci, Annie Sartforia. Demain, on se retrouve pour le dernier épisode. Demain, ça sera d'ailleurs une journée spéciale pour voir comment ce conflit en Syrie, cette guerre en Syrie, a changé le monde. 5 ans de guerre en série. Ça sera d'ailleurs une journée spéciale pour un grand récit d'aujourd'hui, du monde moderne. Et demain, on verra comment Palmyre a vécu sous le règne d'Al-Assad, père et fils, et comment Palmyre souffre aujourd'hui. À demain, Annie Sartforia.
À demain.
Jour est possible par Toufik Hakem tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Dodo Tisha roule en moins. Dodo Tamara en moins, Dodo Omolay en moins, Dodo Tididine en moins. Maman ou maléré, l'allée la rivière, l'allée fouiller trou crabe. Papa ou maléré, l'allée l'enjadel, l'allée bousquer patate, moi voyez caille soya, acheter doukou nous, me faire à goubou.
Je suis allé à la gendarmerie. J'ai dit, Léon n'est pas rentré avant-hier, il n'est pas rentré hier non plus. J'ai dit, j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose à Léon. C'est par ce mensonge que tout a commencé. C'est ainsi que s'ouvre le dernier roman de mon invité ce matin, Corinne Royer, et leurs baisers au loin les suivent, édité par Actes Sud. Bonjour Corinne Royer.
Bonjour.
Pourquoi ce mensonge inaugural? Pourquoi Cassandre, qui vient de perdre son mari, va le déclarer disparu alors qu'elle vient de l'enterrer, dans le secret, avec la complicité d'un voisin? Ça ressemble à un polar, avec comme starter un fait divers et une fausse déclaration, mais il se trouve que non. Il n'y a pas d'homicide et on change de registre très rapidement. C'est un roman multipiste, plusieurs voies, plusieurs temporalités et plusieurs lieux surtout. On va peut-être parler des lieux, Corinne Royer. Un petit coin de France rurale, en bord de Loire, Bourbon-Lancy, le domaine du Grand Fleury. Mais il y a aussi Haïti secoué. Et on voyage de la mer Égée à l'Algérie en guerre et des États-Unis au Mexique. On voyage beaucoup dans votre livre. Parce que le personnage central va être pris dans un tourbillon où la grande histoire va rencontrer plein de petites histoires.
Oui, effectivement, ce sont plutôt des voyages que je qualifierais de voyages immobiles, puisqu'on va rentrer dans une sorte de géographie des songes. Le roman est ancré dans ce petit territoire rural en bord de Loire. C'est un lieu que j'ai découvert en réalité initialement lors d'un reportage et qui m'avait frappé puisque c'était un superbe domaine agricole. Sauf que les murs du domaine étaient seulement à une dizaine de mètres de la falaise creusée par le fleuve, par la Loire. Et pendant l'écriture du roman, c'est-à-dire entre le moment où j'ai commencé l'écriture et le moment où j'ai terminé mon manuscrit, le domaine a été détruit par mesure de sécurité. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu testamentaire par rapport à ce lieu dans le roman. Et puis les autres lieux que vous avez évoqués, effectivement, sont ces géographies des songes qui font que...
dans pas seulement des songes, hein, c'est aussi le passé, les passés.
Oui, mais qui justement reviennent sous forme de pensées, hein, puisqu'on est dans la tête de cette femme, on est beaucoup dans la tête des personnages. Et c'est vrai que je dirais que... on peut pas vraiment dire que les personnages habitent les lieux, mais plutôt que les lieux habitent les personnages. C'est un petit peu ce constat-là qu'on peut faire par rapport à cette géographie.
C'est important pour vous
Oui, parce que je pense que même si au départ il y a ce côté très très rugueux, ce côté territoire rural, on est donc vraiment ancré dans la terre. Ça n'empêche pas que les pensées s'envolent, que les souvenirs reviennent, que le passé soit revisité. Et c'est une faculté humaine qui est fondamentale, en tout cas pour un écrivain.
Parlez-nous de Cassandre, Corinne Royer.
Alors Cassandre, elle a une âme vagabonde puisque elle est un petit peu dans cette ambivalence. Elle est née en Haïti, donc elle a du sang haïtien.
Mais elle est venue très tôt.
Voilà,
en
mais
France.
elle a été adoptée à l'âge de 18 mois. Donc elle a été élevée en Bourgogne dans une famille occidentale. Donc elle a été élevée à l'occidental. Mais toute sa vie, elle va avoir le souhait de retourner sur la terre de ses ancêtres ou en tout cas de connaître la terre de ses ancêtres. Et elle va toujours être dans cette ambivalence, c'est-à-dire qu'elle est, c'est à la fois une femme qui a une vie assez, assez complète, qui est mariée, qui travaille au domaine, qui est instruite, une femme très instruite. Et puis, parfois, il y a ce flot de sang haïtien qui revient en elle et puis qui lui donne envie de retourner sur cette terre des ancêtres. Et elle va cheminer comme ça dans cette ambivalence pour essayer de savoir qui elle est vraiment. Est-ce qu'elle est de là où elle est née? Est-ce qu'elle est de là où elle a grandi et vécu? Ou est-ce que tout simplement elle n'est pas de là où elle a aimé?
Voilà. Et cette question qui est au centre, au cœur de votre livre, et leurs baisers au loin les suivent, aura donc une réponse à la fin. C'est dans un aéroport, mais je dirais pas plus. C'est un livre qui est vraiment construit sur plusieurs temporalités, puisque elle va apprendre, après 30 ans de mariage, après la mort de son mari, elle va apprendre des choses que ce mari, ce Léon, a longtemps cachées.
Oui, c'est aussi un roman, du mensonge, ou en tout cas du malentendu. Donc le Léon, le mari de Cassandre, est un homme taiseux, qui a des souvenirs douloureux, qui a des traumatismes. Et ces traumatismes, Cassandre, il lui en a jamais parlé pendant ses 30 ans de vie commune, mais elle va les découvrir par le biais de courriers qu'elle va recevoir qui vont lui faire des révélations. Donc la transmission de ces traumatismes va passer par un autre personnage, qui est en l'occurrence le frère de Léon, sans vouloir trop dévoiler de choses du roman. Et Cassandre, à partir de là, va peut-être comprendre davantage Léon, c'est-à-dire comprendre ses silences, comprendre ses emportements, comprendre ses renoncements. Et je crois que dans la construction du roman, plus Cassandre est consciente de la mort de Léon, et plus Léon est présent. C'est-à-dire que du moment où Léon est mort, sa présence et l'attachement que Cassandre lui voue va augmenter.
Mais d'une manière générale, les morts sont très présents dans votre roman. On parle même aux morts, et ce n'est pas...
Alors non seulement on leur parle, mais on leur ment.
Oui.
Voilà, il y a un moment où Cassandre, effectivement, qui continue de parler à Léon, il y a un moment, elle va même décider de lui mentir. Alors c'est un mensonge bienveillant, hein, c'est pour le protéger, mais elle va décider de lui mentir.
Alors c'est un roman qui questionne aussi notre rapport au lieu, lieu de naissance, lieu de vie, lieu de où on a construit une vie autour d'un amour. Ces lieux peuvent être très douloureux pour ceux qui ont connu les affres de la guerre, par exemple. Mais il y a donc, même si ce n'est jamais présenté d'une manière aussi claire, une quête d'identité chez vos personnages, et d'ailleurs pas seulement chez Cassandre.
Oui, c'est une espèce de, il y a une espèce de quête initiatique, c'est-à-dire que la question se pose d'accepter son destin, ou au contraire de lutter contre. Une espèce de, ça me fait un peu penser à la mort fatie de Nietzsche, où on dirait que non seulement il faut accepter son destin, mais il faut rentrer en empathie, il faut aimer son destin. Et je crois que c'est ce chemin-là que Cassandre va parcourir, c'est-à-dire que entre sa vie fantasmée, hein, entre ses songes, ses rêves, et puis le factuel, la réalité de son quotidien, à un moment, elle va devoir faire des choix. Elle va soudain avoir une certaine liberté, avec tout ce qu'il peut y avoir d'encombrant dans cette liberté nouvelle. Et à partir de là, et ben, il va falloir qu'elle décide seule de sa destinée.
Et dans ce bal de personnages et de fantômes, qui peuple votre dernier roman et leurs baisers au loin les suivent, Corinne Royer. Est-ce que vous-même, vous faites partie de cette galerie de personnages? Est-ce que vous avez donné un peu de votre vie, de votre expérience aux protagonistes de votre roman?
Alors moi directement non, mais mon entourage, mes rencontres, évidemment que le travail d'écrivain se nourrit de tout ça. J'ai toujours le sentiment qu'on n'invente pas grand chose et qu'effectivement, en tout cas moi je m'inspire beaucoup des rencontres, des personnalités que je croise, de ce que j'ai pu vivre dans mon enfance. Alors Haïti c'est un petit peu la même histoire. Haïti, moi je ne suis jamais allée physiquement en Haïti, par contre j'ai connu d'assez près des Haïtiens et je suis assez fascinée par la faculté de résilience de ce peuple-là, c'est-à-dire sa faculté à réenchanter le quotidien malgré tous les malheurs subis, que ce soit politique, que ce soit les événements naturels, notamment le dernier séisme. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup fascinée, cette capacité à réinventer le quotidien, à réenchanter le quotidien. Et c'est un peu ce que va faire Cassandre, elle va réenchanter son quotidien.
Et leurs baisers, au loin, les suivent, c'est édité chez Actes Sud. On passe à la dernière partie de l'émission avec notre invitée Corinne Royer. Il faut choisir trois questions. C'est le questionnaire d'un autre jour.
Alors je pioche.
Eh oui.
Alors la plus belle place du village du monde. Alors la plus belle, peut-être pas, moi en tout cas celle à laquelle je suis très attachée, c'est la place aux herbes à Uzès. C'est d'abord un endroit très beau et puis c'est un endroit où j'ai des souvenirs émouvants. Voilà, c'est là. Plus que le lieu, c'est la place du souvenir dans le lieu.
Deuxième question, deuxième lieu.
Le plus beau port du monde. Alors je connais pas beaucoup de ports du monde, j'en ai peu visité, mais... On va faire un petit hommage à Brel avec le port d'Amsterdam.
Que vous connaissez?
Que je connais pas, non, enfin que je connais en image, mais pas en réalité. Mais
vous
par
voyagez
contre, c'est
beaucoup?
Une très très belle. Non, je vous fais beaucoup de voyages immobiles, moi, je suis comme Cassandre.
Allez, troisième et dernière question. Corinne Royer?
Le plus beau phare du monde. Alors, je sais plus comment il s'appelle, j'en ai connu un en Bretagne, mais je sais plus son nom. C'est un très vieux souvenir, puisque c'était le seul voyage que j'ai fait avec mes parents. Et je ne sais plus son nom, mais c'est une image très forte. Voilà.
Merci d'être passé ce matin.
Merci beaucoup.
Générique, par Corinne Royer.
Ah, alors là, Julie. C'était un autre jour est possible, une émission quotidienne de Toufik Hakem, tous les matins à 6h ou quand vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr à la page de l'émission. Un autre jour est possible a été préparé avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Duterre et Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Claude Niort.
Merci Corinne Royer, on se retrouve demain à la même heure et demain ce sera une journée spéciale sur France Culture. Un grand récit du monde moderne, comment notre monde a changé depuis la guerre en Syrie, 5 ans après, un bilan avec des témoignages et un grand témoin, un écrivain. Je vous en parle bien sûr dès demain matin à 6h. Passez une bonne journée sur France Culture.